L'histoire d'humanité se résume à une longue suite de tyrans qui, les uns après les autres, détiennent le pouvoir et oppriment le peuple. Parmi eux, Nabucodonosor était tout aussi cruel et despotique que les autres. Pourtant, il fut l'objet de la grâce de Dieu qui, à plusieurs reprises, s'est adressé à lui par des rêves ou des événements extraordinaires. Ce roi se fait construire une immense idole plaquée or et ordonne à tous les hauts fonctionnaires de son royaume de l'adorer. Comme les trois compagnons de Daniel refusent tout net, il voit rouge et les fait jeter dans une fournaise ardente. Mais il est très impressionné par le fait que ces jeunes gens étaient prêts à perdre leur vie plutôt que de transgresser la loi de Moïse en se prosternant devant son idole. Alors, il rend hommage à leur fidélité à Dieu et à leur fermeté dans la foi en les appelant serviteurs du Dieu très haut. Car même si ces trois hommes sont au service du roi de Babylone, leur allégeance première va à l'Éternel. La délivrance miraculeuse dont ils ont été l'objet atteste, ici encore, la souveraineté du Dieu des cieux. Non seulement ils limitent la durée des royaumes de ce monde, mais aussi le pouvoir de leur potentat en intervenant dans les affaires humaines et en faveur des siens. Marqué par la puissance de l'Éternel, Nabucodonosor a fait connaître sa nouvelle conviction à son égard en décrétant « Tout homme de quelque peuple, nation ou langue quel qu'il soit, qui parlera d'une manière irrespectueuse du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas de décombres, parce qu'il n'existe pas d'autre dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. » Je continue à lire dans le chapitre 3 du livre de Daniel. Le roi Nabucodonosor adressa à tous les peuples, à toutes les nations et aux gens de toute langue qui habitent la terre entière le message suivant. Que votre paix soit grande. Verset 31. Confronté à plusieurs prodiges, Nabucodonosor a tout d'abord dû reconnaître que l'Éternel a la puissance de délivrer ceux qui lui font confiance et qui lui obéissent. Mais maintenant, il va bien plus loin dans ses convictions puisqu'il fait circuler dans tout l'Empire une proclamation officielle qui est un témoignage personnel suite à une expérience douloureuse qu'il a vécue. Il veut faire profiter tous ses sujets du nouvel éclairage spirituel qu'il a reçu de la part de l'Éternel. Assez curieusement, de la part d'un dictateur, il commence sa proclamation par « Que votre paix soit grande ». Qu'entend-il dire par là? Il n'exprime pas le souhait de voir les divers peuples sur lesquels il régnait vivre en paix les uns avec les autres, car sa puissante armée avait fait cesser toute dispute et établi une Pax Romana, ou plutôt Pax Babylonia, dans tout l'Empire. Ici, il parle de la paix de l'âme ou du cœur, la tranquillité intérieure, et ce ne sont pas des paroles en l'air, parce qu'après être passé par une difficile et longue période de troubles mentaux graves, il a trouvé la sérénité suite à sa conversion au culte du vrai Dieu. Le cœur de l'homme et de tout homme aspire à cette paix que Nabucodonosor a découverte, mais elle ne s'obtient qu'en faisant confiance au seul vrai Dieu. L'apôtre Paul écrit « Une fois que nous sommes déclarés justes en raison de notre foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette paix a été conclue avec Dieu le Père, par Dieu le Fils, au nom de tous les croyants. Il l'a obtenu pour nous après avoir purgé notre peine, c'est-à-dire expié nos fautes par le sang qu'il a versé sur la croix. Dorénavant, Dieu est favorable à tous ceux qui viennent à lui au nom de Jésus. À la base de toutes les difficultés, malheurs et tragédies qui affligent ce bas monde est le problème du péché. C'est ce qui explique pourquoi les choses ne vont pas comme on veut et pourquoi les relations sont difficiles. Un jeune lycéen a exprimé son désarroi en disant « Je ne suis pas en paix avec moi-même, je ne suis pas en paix avec mes parents, je ne suis pas en paix avec mes profs, je suis en paix avec personne. » Le problème fondamental de l'homme est qu'il n'est pas en paix avec son Créateur. Mais une fois qu'il accepte la paix que Dieu lui offre en Jésus-Christ, alors il peut commencer à régler les conflits qui bouillonnent autour de lui. Un grand nombre de difficultés émotionnelles et maladies dites mentales pourraient être guéries en apportant la paix du Christ et en faisant connaître la parole de Dieu aux personnes affligées. Jésus a dit aux foules qui le suivaient, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Nabuchodonosor est connu pour avoir été un puissant empereur et une brute épaisse qui s'emportait pour un rien. Mais il a changé du tout au tout quand il a fait la paix avec Dieu. Je continue le texte. Il m'a paru bon de vous faire connaître les signes extraordinaires et les prodiges que le Dieu Très-Haut a accomplis envers moi. Verset 32. Dans ce témoignage personnel, l'Éternel n'est plus seulement le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui protège les Hébreux, mais le Dieu qui, par des signes extraordinaires et des prodiges, agit dans la vie de Nabuchodonosor. De païen polythéiste, il est devenu croyant monothéiste. Je continue. Que ces signes extraordinaires sont grands et ces prodiges éclatants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste d'âge en âge. Verset 33. Il lui a fallu du temps. Mais le roi de Babylone reconnaît enfin que le règne du Très-Haut est au-dessus du sien et il veut le proclamer haut et fort à tous les peuples de son empire. Nous arrivons maintenant au chapitre 4 de Daniel qui raconte les circonstances qui sont à l'origine du témoignage personnel de Nabuchodonosor qui a fait l'objet de la proclamation universelle. Ce chapitre décrit la démence qui a frappé le roi ainsi que sa guérison, un événement qui est évidemment passé sous silence dans les annales babyloniennes. Le roi a fait un rêve prémonitoire qui est un jugement contre lui. Il sera affligé d'une maladie mentale grave, mais en guérira. Cette fois-ci encore, c'est Daniel qui lui donnera l'interprétation du rêve. Ce récit est donc présenté sous la forme d'une proclamation officielle du roi à tous ses sujets. Le chapitre précédent a montré comment Dieu a protégé les trois jeunes Hébreux qui étaient prêts à donner leur vie par fidélité à l'Éternel. Ici, par contre, la morale de l'histoire est que Dieu humilie les orgueilleux. Le fait que Nabuchodonosor se soit attiré ce châtiment après avoir reconnu la puissance de l'Éternel est tout à fait vraisemblable. En effet, bien qu'il ait été impressionné par ce qu'il avait vécu, il n'avait pas changé d'un iota et se prenait toujours pour le nombril du monde. On a trouvé étrange qu'il ait ouvert son placard pour en faire sortir le squelette de sa maladie mentale. Mais comme cet épisode tragique de sa vie n'avait pas pu passer inaperçu de ses sujets, une proclamation officielle après son retour sur le trône a été dictée à la fois par une démarche politique ingénieuse et un sentiment de reconnaissance envers l'Éternel dont la main avait pesé sur lui. On sait du reste que la publication de rêves à caractère prophétique faisait partie des coutumes autant des rois d'Assyrie que de Babylone. L'événement que nous raconte ce chapitre a eu lieu vers la fin du règne de Nabuchodonosor quand il était parvenu au sommet de la gloire. On sait qu'il a régné 43 ans, que sa démence dura 7 ans et qu'elle commença après qu'il ait terminé les grands travaux qu'il avait entrepris. Comme il mourut peu de temps après son retour sur le trône, il a dû subir ce châtiment autour de sa 35e année de règne alors que le prophète Daniel devait avoir dans les 50 ans. Je commence à lire le chapitre 4. « Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et je jouissais de la prospérité dans mon palais. Une nuit, j'ai fait un rêve qui m'a rempli d'effroi. Les pensées qui m'ont hanté sur mon lit et les visions de mon esprit m'ont épouvanté. Alors j'ai ordonné de convoquer auprès de moi tous les sages de Babylone pour qu'ils me donnent l'interprétation de mon rêve. Les mages, les magiciens, les astrologues et les devins se sont présentés. Je leur ai exposé le rêve, mais ils n'ont pas pu m'en donner l'interprétation. » Versets 1 à 4. Au début de son règne, Nabuchodonosor avait fait un rêve qui l'avait effrayé. Il s'agissait d'une statue au pied d'argile composée de divers métaux. Puis le temps a passé. Il a consolidé son pouvoir et après avoir triomphé de tous ses ennemis, il est revenu dans sa capitale où il coule des jours paisibles tandis que les affaires concernant son empire ronronnent. Mais sa tranquillité est interrompue par un second rêve qui l'effraie parce qu'il sent qu'il annonce un malheur. Alors, et pour la deuxième fois, il convoque tous les sages et mages de Babylone et leur donne une nouvelle chance de démontrer leur pouvoir, et à nouveau ils échouent lamentablement, bien que cette fois-ci ils n'avaient pas à donner le contenu du rêve, mais seulement son interprétation. Devant l'incapacité des mages, et contrairement à la fois précédente, Nabucodonosor ne s'emporte pas et n'ordonne pas qu'on leur coupe la tête, mais garde son calme. Je continue le récit. À la fin, s'est présenté devant moi Daniel, nommé aussi Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu. L'Esprit des dieux saints réside en lui. Je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit. Verset 5. Belshazzar dérive de Bel, le dieu principal des Babyloniens, aussi appelé Marduk. Comme les peuples auxquels cette proclamation est adressée connaissaient Daniel sous Belshazzar, ce nom est ajouté à son nom hébreu. Au début de cette histoire, on constate que malgré les expériences spirituelles qu'il a déjà faites avec Daniel et ses trois compagnons, Nabucodonosor n'a toujours pas compris que le Dieu des Hébreux est le seul véritable et que son nom est l'Éternel. En effet, d'une part, il se pose encore en adorateur du Dieu Bel, et d'autre part, et bien qu'il reconnaisse en Daniel un porte-parole de la divinité, l'expression « l'esprit des dieux saints » reflète la perspective du monde très polythéiste du roi. Quant à l'épithète « saint », il ne veut pas dire « pur », mais « bienfaisant ». Ce mot sert uniquement à établir une distinction entre les dieux favorables aux hommes et les nombreux esprits et génies malfaisants qui faisaient partie de la mythologie babylonienne. Daniel occupait un poste gouvernemental à très haute responsabilité et il est probable qu'il devait voyager beaucoup, ce qui explique qu'il n'est pas convoqué tout de suite et qu'il ne fait pas partie des sages auxquels le roi fait habituellement appel. Je continue le texte. Belshazzar, chef des mages, je sais que l'esprit des dieux saints réside en toi et qu'aucun mystère n'est trop difficile pour toi. Écoute donc les visions que j'ai eues dans mon rêve et donne-m'en l'interprétation. Verset 6. Nabucodonosor savait très bien que ses mignons de cour et ses conseillers ne cherchaient qu'à le flatter pour obtenir de lui quelques avantages. Mais avec Daniel, il joue carte sur table parce qu'il connaît son intégrité et sait qu'il lui dira toute la vérité et rien que la vérité. Je continue. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais couché sur mon lit. Je regardais et voici ce que j'ai vu. Au milieu de la terre se dressait un grand arbre dont la hauteur était immense. L'arbre grandit et devint vigoureux. Son sommet atteignait le ciel et l'on pouvait le voir depuis les confins de la terre. Son feuillage était magnifique et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tout être vivant. Les animaux sauvages venaient s'abriter à son ombre et les oiseaux se nichaient dans ses branches. Tous les êtres vivants se nourrissaient de ses produits. Verset 7 à 9. Dans les Écritures, l'arbre peut représenter un simple homme, comme dans les passages suivants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Et il ne cesse pas de produire du fruit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Ceci dit, dans la littérature antique comme ici, il était courant de représenter par un arbre un état, un souverain ou un royaume, tandis que les oiseaux et les animaux symbolisent les sujets du roi. Nabucodonosor a vu l'arbre au milieu de la terre, ce qui veut dire qu'il occupe une position centrale et qu'il a beaucoup de place pour s'étendre dans toutes les directions, ce qui était vrai, de l'empire babylonien. Ce rêve rappelle une prophétie d'Ézéchiel qui décrit l'empire assyrien et son monarque. J'en lis un extrait. Voici sur le Liban, Assur était un cèdre à la belle ramure, au feuillage touffu donnant de l'ombre, à la haute stature, sa cime s'élançait jusque dans les nuages. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses rameaux, et sous ses branches, les animaux des champs mettaient bas leurs petits, à son ombre habitaient de nombreux peuples. Par sa taille imposante et l'ampleur de ses branches, c'était le plus bel arbre. Fin de citation. Seulement voilà, comme Ézéchiel annonçait la chute de la Syrie, le rêve de Nabuchodonosor est de mauvais augure. Je continue le texte. Pendant que je contemplais sur mon lit les visions de mon esprit, je vis apparaître un de ceux qui veillent, un saint qui descendait du ciel. Verset 10. Ceux qui veillent désignent des demi-dieux dont le rôle est de constamment observer et gérer la destinée des hommes. Cette expression est fréquemment utilisée dans les textes apocryphes, mais dans les 66 livres canoniques, elle n'apparaît que dans Daniel. Selon les historiens anciens et d'après tous les documents archéologiques en notre possession, les Chaldéens croyaient en l'existence de dieux subordonnés aux divinités planétaires principales. Leur rôle était d'exercer une surveillance sur la Terre, d'administrer les affaires humaines, de contrôler la montée en puissance ou la chute d'une nation ou d'un potentat et de servir d'intermédiaire entre notre monde et les dieux supérieurs tout en les assistant de leurs conseils. On leur donnait aussi le nom de dieu conseiller ou consultant. Ici, ce dieu veilleur est chargé de punir le roi de Babylone. Il faut garder à l'esprit que son rêve épouse la perspective religieuse des Babyloniens et non des Écritures qui enseignent qu'il y a un seul vrai Dieu et des anges qui quelquefois exercent les jugements divins. Dans un sens, on pourrait considérer les anges comme ceux qui veillent parce qu'ils voient tout, entendent tout et savent tout. Nous avons la devise « Pour vivre heureux, vivons cachés » et bien des gens croient cela possible. Mais c'est une pure illusion, car selon les Écritures, Dieu est partout et rien ne lui est caché. Mes péchés secrets sur terre font un scandale retentissant dans les cieux. Depuis que je suis né, non seulement tout ce que j'ai dit ou fait est connu de Dieu, mais aussi tout ce que j'ai pensé et imaginé. Et toutes ces informations sont soigneusement répertoriées dans des livres célestes. Par contre, pour ceux qui acceptent de venir à la lumière du Christ et de reconnaître leurs fautes, celles-ci sont complètement effacées. C'est un peu comme quand on ouvre à la lumière du jour le boîtier qui contient le film d'un appareil photo non numérique. Tous les clichés disparaissent instantanément. Je continue le texte. Le veilleur cria d'une voix forte cet ordre. « Abattez l'arbre, coupez ses branches !» Arracher son feuillage et disperser ses fruits, et que les animaux s'enfuient de dessous lui, que les oiseaux quittent ses branches. Laissez cependant dans la terre la souche et ses racines, mais liez-les avec des chaînes de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs. Versets 11 à 12. La première partie du rêve a décrit un arbre magnifique qui s'étend partout et qui abrite animaux et oiseaux. Cette image pouvait facilement nourrir l'orgueil de Nabuchodonosor. Mais la suite du rêve est l'exécution d'une sentence de jugement. Le roi est destitué. Cependant, l'arbre n'est pas déraciné et le tronc est laissé en place et même protégé par des chaînes, afin que personne ne vienne y toucher, ce qui signifie que le trône de Nabuchodonosor sera préservé et qu'il le retrouvera. Je continue. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il se nourrisse d'herbe avec les animaux, il perdra la raison et se comportera non comme un homme, mais comme un animal jusqu'à ce qu'aient passé 7 ans. Versets 12 et 13. Si la deuxième partie du rêve est dramatique, la troisième est franchement terrifiante parce que le grand Nabuchodonosor est réduit à l'état mental d'un animal, une condition qui durera 7 ans. Dans l'affliction qui s'appelle zoanthropie ou zoopathie, le malade perd son caractère humain. Il croit être un animal et vit à l'état sauvage. Ses goûts et ses affections changent et il adopte un comportement bestial. Il prend un aspect repoussant avec cheveux hirsutes et ongles en griffes. Ici, Nabucodonosor se prend pour un bœuf et mange de l'herbe, une maladie qui s'appelle la boanthropie. Je continue le texte. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il accorde la royauté à qui il veut et qu'il établit roi le plus insignifiant ou le plus vil des hommes. Tel est le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nabucodonosor. Quant à toi, Belshazzar, donne-moi l'interprétation puisque tous les sages de mon royaume s'en sont montrés incapables, mais toi tu le peux, car l'esprit des dieux saints réside en toi. Versets 14 et 15. Comme je l'ai déjà dit, le rêve n'est pas conforme à l'enseignement des Écritures, mais à la vision religieuse du roi de Babylone. D'ailleurs, plus loin, on voit que dans son explication, Daniel tient un tout autre langage et attribue le décret de ceux qui veillent et l'ordre des saints au Très-Haut seul. Mais dans la perspective de Nabucodonosor, les dieux lui disent que ce sont eux qui décident qui est sur le trône. Ils élèvent un être vil et rabattent l'impudent caquet des vaniteux. Ce rêve révèle que c'est l'Éternel qui détient l'autorité suprême et qu'il a décidé de châtier le roi de Babylone à cause de son insolence. S'il y a un péché pire que les autres, c'est l'attitude arrogante qui refuse de courber les chines devant le Dieu des cieux.